Alors, bonne matinée à tout le monde. C'est vraiment une grande joie de nous retrouver ce matin pour l'enregistrement de cette troisième cassette sur la paix intérieure profonde. Comment l'acquérir et comment la conserver. Nous aurons cet avant-midi donc deux exposés de 45 minutes. Premier exposé, le quatrième sera sur la face A de la cassette et le cinquième et dernier exposé, un peu plus tard, sur la face B de cette cassette. J'en profite pour vous féliciter et vous remercier pour votre grande fidélité à participer assidûment et avec ferveur avec moi, à ce temps d'adoration et de louange qui précède immédiatement, comme il se doit, chacun de nos enregistrements. Nous avons donc vu hier, au cours des différents exposés, les deux premiers grands fleuves, celui de la charité et celui de la vérité, qui doivent alimenter et renouveler continuellement l'eau vive de cet océan de paix intérieure. Nous allons maintenant passer au troisième et dernier de ces grands fleuves, celui de la liberté. Et comme dans le cas des autres fleuves, nous nous poserons trois grandes questions. Je vous souligne immédiatement que sur ce point, je serai plutôt bref, car comme vous le savez ou comme je vous l'apprends, il existe déjà un enseignement de 2 heures sur cassette intitulé Vive la vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Les cassettes 12, G2, 10 et 11. Alors, je ne reprendrai pas ici aussi longuement que je l'ai fait pour la charité et la vérité l'explication de ce qu'est la liberté spirituelle. Je vais donc donner ça en capsule assez sommairement et je vous réfère pour en savoir davantage sur ce thème qui est très important de recourir à cet enseignement déjà à votre disposition. Notre première démarche est toujours la même. Il faut remonter à la source première du fleuve en question, à l'origine de la parfaite liberté. Eh bien, dans ce cas-ci, comme dans le cas de la charité et de la vérité, la liberté, elle vient de Dieu lui-même. Il est l'être parfait qui possède le plus et le mieux la vraie liberté. Dieu est tout à fait libre dans l'activité de sa volonté. Comme il sait tout, comme il voit tout, comme il peut tout, car il a tout fait, rien ou personne ne peut l'influencer ou l'empêcher d'agir librement. Il a créé l'univers, les astres, les anges, les êtres humains, le ciel et la terre en toute liberté, parce qu'il l'a voulu ainsi et comme il l'a voulu. Il en est de même concernant la rédemption. C'est tout à fait librement qu'il a envoyé Jésus s'incarner et nous sauver. Et c'est tout à fait librement que Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Et c'est cette liberté et profusion d'amour que Lucifer et compagnie n'ont pas voulu accepter. Et c'est pour ça qu'ils ont connu cette sentence éternelle. Dieu est la liberté même, la liberté de vie, la liberté d'action, la liberté de volonté, la liberté de principe, la liberté d'amour. Et la vie au ciel qui nous est proposée, c'est la vie dans la liberté. C'est un lieu de liberté par excellence. Personne n'entrera au ciel de force. Dieu nous donne son amour parce qu'il est libre et c'est parce qu'il veut bien nous aimer. Il n'y avait rien qui l'obligeait à partager son amour et à nous aimer. Tout ce qui est de Dieu et en Dieu est libre. Tout ce que Dieu fait est libre. Tout ce que Dieu dit est libre. C'est donc, pour aller jusqu'au bout, librement qu'il nous a créés libres. Et les humains bénéficient d'une liberté encore plus grande que celle qui a été octroyée aux anges. Les anges ont eu une liberté de choix pour Dieu, pour son plan d'amour, son plan d'incarnation et de rédemption. Et certains n'ont pas voulu, donc ont choisi contre, et maintenant ne peuvent plus changer d'idée. Les bons anges sont bons anges pour l'éternité, sont fixés dans le bien. Les mauvais anges sont fixés dans le mal. Il n'y a pas de revenez-y. Donc notre liberté a sa source en cette liberté divine et doit donc s'y alimenter, s'y ressourcer toujours. Et notre modèle, c'est donc d'être libre à la manière de Dieu. On sait que Dieu est toujours actif et que son amour est toujours nouveau, ne se répète jamais. L'amour que Dieu est en train de déverser dans nos âmes au moment où je vous parle, ce n'est pas le même amour qu'il a déversé il y a quelques moments ou il y a quelques heures. C'est un amour nouveau. Il ne se répète pas. Et donc, l'amour qu'il est en train de nous donner, étant donné que c'est un amour nouveau, il le donne dans une liberté nouvelle. Dieu doit exercer sa liberté à chaque fois qu'il donne de l'amour et en donne. C'est toujours un acte nouveau d'amour, mais en même temps un acte nouveau de liberté. Au psaume 135, verset 6, on lit que tout ce qu'il veut, le Seigneur le fait au ciel et sur la terre, dans les mers et tous les abîmes. Ce qu'il veut. Rapidement, on sait que dans la Bible, la Genèse et les psaumes insistent beaucoup à diverses reprises sur la liberté de l'acte de création. Le livre de Job, lui, fait ressortir la liberté dans le gouvernement du monde. Et on lit dans Job 23, 13, Dieu est l'unique et personne ne peut détourner ses desseins. Et ce que désire son cœur, il l'accomplit. Dans le Nouveau Testament, il est plutôt question de la liberté de la rédemption. C'est ça qui apparaît surtout. Alors dans des textes comme « L'Esprit souffle où il veut » Jean 3, 8. Il distribue ses dons comme il lui plaît. 1 Corinthiens 12, 11. Je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. C'est saint Paul, à Romains 9, 15, qui nous rapporte ce que Dieu a dit à Moïse, et qu'on retrouve dans le livre de l'Exode 33, 19. Donc, Dieu est complètement et parfaitement libre. Il veut, parce qu'il se détermine librement à vouloir, tout ce qu'il veut, dit ou fait. La synthèse se retrouve dans la phrase très, très courte de saint Augustin. Dieu veut parce qu'il veut. Soulignons en passant que Dieu ne peut pas choisir le mal, et ce serait se détruire lui-même. qu'il le choisissait. Il ne peut pas permettre le mal non plus et le vouloir positivement. Il le permet occasionnellement pour des circonstances que l'on connaît. Donc ce n'est pas une déficience que de ne pas pouvoir choisir le mal. Les bons anges et les saints n'ont plus ce choix entre le bien et le mal. C'est une perfection de la liberté d'en arriver à choisir seulement entre des biens, à choisir un bien plus qu'un autre. Mais ce n'est pas la perfection de la liberté que de choisir entre le bien et le mal. D'ailleurs, dans le plan initial du paradis terrestre, on n'avait pas, on était fixé dans le bien. Et c'est la faute d'Adam et Ève d'avoir demandé la connaissance du bien et du mal. Et c'est la fourberie de Judoka leur avoir fait accroire que c'était plus parfait d'avoir à choisir entre le bien et le mal. Et ils ont posé le geste de la connaissance du bien et du mal, puis après ça, ils ont été pris dans ce combat continuel. Alors, la perfection, c'est de revenir à ce que Dieu avait voulu pour nous, ce que vivent les saints et les anges et lui-même, savoir chercher lequel bien par rapport à l'autre bien est le meilleur à faire ou à dire dans les circonstances. Dans les Actes des Apôtres, au commencement, on lit à peu près ceci. Ils étaient donc réunis autour de lui. Les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Et Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine. » Et les autres traductions de Tob ou de Jérusalem disent, « Dans sa seule autorité ou dans sa propre autorité. » Dieu peut changer d'idée en cours de route si on répond à sa grâce et à son désir. Bon, alors, en résumé, la généalogie de la liberté est très claire. C'est un don de Dieu, un don du Père, que Jésus nous a restauré et mérité. Quand on dit « il a donné sa vie pour que nous soyons et restions libres », et l'Esprit-Saint l'entretient continuellement en nous. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La charité, premier fleuve que nous avons considéré, la vérité, le deuxième fleuve, ne peuvent suivre leur cours et s'épanouir et écouler leur eau vive en plénitude que là où il y a également le fleuve de la liberté. Et Jésus, d'ailleurs, nous a tracé très clairement le lien entre les trois fleuves, entre les trois composantes de la paix, entre la charité, la vérité et la liberté, quand il a dit, « Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Et ailleurs, il a précisé, « Si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité. » Donc, si vous demeurez en moi, dans mon amour et mon amour en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Passons à la deuxième démarche. Si ce torrent de liberté nous est offert, il nous faut nous en laisser imprégner jusqu'à la moelle des os et devenir un être de liberté vrai et pleine de charité. Et c'est ici que je vais vous donner en capsule ce qui est donné dans les enseignements des deux autres cassettes sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel de la liberté? C'est de pouvoir en arriver à conformer parfaitement en tout, partout et toujours sa volonté et son jugement personnel avec la volonté et le jugement de Dieu. Établir donc une autoroute directe où à chaque fois que je veux ou que je juge, je sens au fond de moi-même que je veux ce que Dieu veut ou ce que Dieu veut que je veille, et je juge comme Dieu juge. Et là, il y a une autoroute, une conformité parfaite entre les deux. Et si ça, ça existe, j'ai la liberté spirituelle. Et à ce moment-là, si j'ai la liberté spirituelle à l'intérieur de moi, ma liberté d'action, ma liberté d'expression, ma liberté de tout genre, d'opinion, de conscience, de parole, vont s'ajuster à la liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Dans l'enseignement, on souligne évidemment que cette liberté intérieure profonde est constamment menacée, et on étudie les menaces les plus courantes qui s'appellent les prises en otage, les états de dépendance et les jougs. Également, dans cet enseignement sur la liberté, on insiste beaucoup sur l'importance d'être non seulement libre soi-même, mais d'avoir une attitude qui libère les autres, qui ne les prend pas en otage, qui ne leur impose pas nos idées, nos façons d'agir autrement. Donc, être libre et libérateur face aux autres. Alors voilà, mes chers amis, sur le fleuve de la liberté, l'essentiel, et je vous réfère encore une fois à ces cassette. Disons rapidement, y a-t-il des obstacles fréquents qui nous empêchent, en plus de ces obstacles de prise d'otage, d'état de dépendance, tout ça? J'en souligne quelques-uns pour attirer notre attention en terminant ce point. Les obstacles et les barrages les plus fréquents à l'accueil du fleuve de liberté que Dieu veut déverser en nous sont d'abord la peur de se l'accorder. C'est curieux. Au fin fond, on veut être libre. Mais je découvre continuellement des gens qui ont peur de la liberté. Qui ont peur parce qu'à ce moment-là, vous savez, on est à découvert. Quand on conforme sa volonté, son jugement à celui de Dieu, et qu'on connaît la volonté et le jugement de Dieu, on ne peut plus jouer à la cachette. Alors, il y en a qui ont peur de se l'accorder, la liberté. Donc, la filtre, la bloque à l'entrée. L'ignorance de ce que c'est, également. Le mauvais usage de la liberté finit par gâcher la vitalité de la liberté. Les blessures ou les mauvaises expériences antérieures. Les obstacles fréquents à la sortie. Qu'est-ce qui fait qu'on ne laisse pas sortir la liberté pour l'accorder aux autres? Bien, c'est souvent l'insécurité personnelle qui fait de nous un dominant, une dominante ou un dominé. C'est également le manque de confiance envers les autres, ou une fausse prudence. Alors, sur ce point, je terminerai en disant ceci. Pour connaître la vraie paix intérieure, il faut, tout autant qu'il est nécessaire d'être être de charité et être de vérité, il faut être tout à fait libre et autonome, devant soi, devant Dieu et devant les humains. La seule dépendance admissible, c'est celle qu'on a et doit toujours garder devant Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Sanctificateur et Accompagnateur, Père, Fils et Esprit Saint. Mais même cette dépendance, elle-même doit être acceptée librement. C'est pas tout de savoir qu'on est des êtres créés. Il faut être heureux d'être créé parce qu'on a été créé par ce Dieu infiniment grand, infiniment bon, infiniment miséricordieux. Donc, librement, on dit oui à cette dépendance. Et une fois que cet accord est librement donné et maintenu, cette dépendance qui demeure, fort paradoxalement, nous libère. Car c'est à travers cette dépendance à Dieu que l'on reçoit, entre autres, l'amour, la paix, la joie, la lumière, la force, la sécurité. Donc, on n'est pas emprisonné, on est libéré, précisément parce que cette dépendance établit un pontage, un circuit qui est libérant, libérateur. Et sa plénitude à lui rompt en nous toute solitude et toute inquiétude. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la cinquième et dernière partie de l'enseignement. Et comme il est dit dans le plan, nous parcourons ensemble un ensemble de réflexions et de recommandations pratiques et utiles concernant la vie de paix intérieure profonde et durable. Et vous avez d'ailleurs dans le schéma la liste de ces 7 thèmes, ces 7 réflexions que nous allons parcourir. Et cette partie terminée, nous conclurons l'enseignement et nous ferons une prière pour demander cette grande grâce. Le premier point, je voudrais parler des grands bienfaits de la paix intérieure. C'est-à-dire de cette paix où il y a vraiment charité, vérité et liberté qui sont de lui. En plongeant dans mon propre vécu, je sens que les bienfaits sont de 3 ordres différents. D'abord, et je l'ai déjà indiqué, le premier bienfait de la paix intérieure s'éprouve au fond de soi-même. On constate et on savoure de plus en plus une plénitude de vie qui opère en nous, qui n'est vraiment pas de ce monde. Et on s'en rend compte. Et on l'apprécie. On s'en rend compte parce que les mêmes causes que jadis ne produisent plus en nous les mêmes effets. On sait comment, à un moment donné de notre vie, les contrariétés, les incompréhensions, les jugements des autres, les opinions des autres, les maladies, les épreuves, le succès, les échecs, les blâmes, les compliments, tout ça créait chez nous un certain trouble. Et on découvre tout à coup que cela produit en nous des échos différents, meilleurs, parfois même radicalement nouveau par rapport à ce qu'on éprouvait autrefois. Et devant les mêmes circonstances, on constate que nos réactions sont plus équilibrées, sont plus épanouissantes, sont moins troublantes. Et c'est un phénomène qui surprend au début, mais peu à peu, c'est clair, il nous rassure. On découvre progressivement cette montée en nous d'une sécurité nouvelle, d'une sérénité accentuée et plus constante, d'une stabilité plus grande dans la paix. La paix, sa paix, s'installe de plus en plus solidement et définitivement. Et le plus beau en tout cela, puis on le repère assez tôt, si on est tout petit devant Dieu, c'est qu'on voit bien que ce qui se passe nous arrive d'ailleurs, échappe à la vérité, à notre initiative et à notre contrôle, dépasse notre caboche, notre compétence. Et on voit, on sent, on entend, on goûte et on touche même, pour ainsi dire spirituellement, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité, l'esprit de liberté du Seigneur, vraiment à l'œuvre en nous et autour de nous. C'est lui qui nous donne donc cette plénitude de vie, ou encore nous élève ou nous enlève à cette nouvelle altitude, pas attitude, mais altitude de vie spirituelle, où la force de gravité des choses purement terrestres et profanes ne nous atteint plus, ou du moins de moins en moins. Mais cette paix profonde produit également de très grands bienfaits sur un deuxième plan, important aussi, celui de nos relations avec les autres. On constate peu à peu, à mesure que cette paix intérieure s'épanouit en nous, on constate et on garde un plus grand calme face à ce que vivent les autres, même de façon nettement différente. Leur vie à la course, leurs tensions, leurs inquiétudes, ou même leurs essais plus ou moins conscients de nous manipuler, de nous dominer ou nous enrégimenter. On regarde ça, on voit ça plus clairement qu'avant, puis ça nous inquiète moins. On cesse vraiment de se faire du mauvais sang pour ou contre, pour ou à cause des autres. Et cet état de plus grand calme chez nous, qui cesse d'être donc une résistance agressive vis-à-vis les menaces des autres, mais plutôt une résistance remplie de paix, eh bien, il faut l'avouer, ça ne passe pas inaperçu aux yeux des autres. Ça les agace, parce qu'ils peuvent plus difficilement nous mettre la laisse au cou, le grappin dessus, ou ils ne peuvent plus nous embarquer aussi facilement qu'avant. Mais comme c'est fait dans la paix de notre côté, tranquillement, ça se dissout. Enfin, la vraie paix intérieure a toute une série de bienfaits d'un troisième ordre. Elle nous permet, en outre, de découvrir, j'insiste sur ce mot que je mets entre guillemets, expérimentalement, la véracité et la beauté de bien des thèmes d'Évangile. Comme par exemple, on sait que le Seigneur nous recommande l'amour des ennemis, il partons. Ça devient beaucoup plus facile quand on vit tout ça avec la paix intérieure. Car on voit davantage comment Dieu tire le bien du mal. Et on découvre clairement que la première victime d'un non-pardon est en définitive celui qui le refuse. C'est lui qui est le plus mal pris à ne pas pardonner. Mais il faut avoir sa vie inondée de charité, de vérité, de liberté pour pouvoir avoir cette paix et voir la beauté de l'amour des ennemis et la beauté et la richesse du pardon. C'est vrai de vrai également qu'en cas d'attaque et de persécution à cause de lui, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a même pas à préparer sa défense. J'en parlerai un peu plus loin. L'Esprit nous inspire fort et attend dans toutes les circonstances où les gens nous attaquent. Mais pour comprendre ça, et bien le comprendre et bien le goûter, il faut être dans la paix intérieure. On découvre également la beauté et la praticabilité et la rentabilité des béatitudes évangéliques. Avec la paix intérieure, on voit comment il est vraiment possible de se réjouir et de s'épanouir en cette plénitude de vie qui est la sienne, même si on est pauvre, même si on est insulté, même si on est jugé, condamné, persécuté. On voit également, grâce à la paix intérieure, de mieux en mieux, comment se dessine la voie, V-O-I-E ou la voix VOIX intérieure du Seigneur qui s'exprime en nous. Bref, se précise en nous beaucoup mieux ce que j'appelle l'opérationnel de Dieu à l'œuvre en nous. On décode et on repère beaucoup plus vite les fourberies et les stratégies de Judoka le fourbe. Se développe en nous, grâce à la paix intérieure, beaucoup mieux la petitesse d'âme. La petitesse d'âme qui n'est pas là pour ratatiner l'âme, mais pour l'épanouir. Parce que la petitesse d'âme, en nous vidant de nous-mêmes et en nous remplissant de lui, augmente la paix, et la paix augmente la petitesse. La paix intérieure également nous rend, pour ainsi dire, des adorateurs perpétuels de Dieu. Parce que la relation de notre infinie petitesse avec son infinie puissance d'amour se fait sans complexe d'infériorité, sans écrasement. On est à l'aise et on adore notre Dieu tout-puissant tout en se sentant tout petit. On n'est pas malheureux d'être petit, on est même heureux. On devient contemplatif dans l'action. On découvre que la prière est un acte de recueillement et non pas de concentration, etc., etc. Bon, voyons maintenant au deuxième point quelques-unes des conséquences qui nous guettent quand il y a manque partiel ou total de vraie paix intérieure. Eh bien, ici, c'est clair et net que si on n'a pas la paix intérieure, on devient constamment et nerveusement toujours à la recherche. Et alors, on glisse facilement dans cette tendance au questionnement et à l'analyse continue, la questionnite aiguë ou chronique à propos de tout et de tous. Et on arrive à jamais trouver la réponse parce que ces réponses-là nous viennent d'en dehors, nous viennent d'ailleurs, et ça ne satisfait pas notre questionnement. C'est également le carrousel, le merry-go-round, des mouvements, des sessions, des bonnes œuvres. C'est l'avalanche des livres, des cassettes, des activités. Donc, on tombe dans l'agitation spirituelle. Et on ne trouve pas, et on ne trouvera pas. Parce qu'en fait, le problème n'est pas un problème de savoir, de post-émetteur. C'est un problème de récepteur qui est mal ajusté. Car nos réponses, Dieu veut nous les donner en direct. C'est à nous d'accueillir, de nous mettre en disponibilité pour que ce fleuve de charité, de vérité, de liberté nous envahisse, et on en aura pour notre faim et notre soif. Sans paix intérieure, ou là où il y a manque de paix intérieure, on connaît une beaucoup plus grande vulnérabilité aux fourberies et aux manigances de Judoka le fourbe. Comme je l'ai dit, il est allergique à la climatisation de charité, de vérité, de liberté. Ça le tient à l'écart. Il étouffe dans cette climatisation. Et la paix intérieure crée autour de nous une sphère qui nous protège et que Judoka n'ose pas s'approcher. Or, si tout cela fait défaut, Judoka en profite pour attaquer, envahir et accaparer. Passons, si vous voulez, à la troisième réflexion concernant les meilleurs moyens à prendre pour assurer et protéger sa paix intérieure. À la vérité, je pourrais à ce moment-ci me contenter de dire et redire que le meilleur moyen, c'est d'assurer la libre circulation de l'eau dans le fleuve de la charité, de la vérité et de la liberté. Donc, de faire en sorte que cette eau soit l'eau vive du Seigneur. La vraie charité, la vraie liberté, la vraie vérité, une eau donc non polluée, non diluée, et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle au libre écoulement de cette eau qui vient vers nous pour se déverser dans l'océan de la paix intérieure. Mais je pense qu'il vaut la peine quand même d'ajouter un certain nombre de conseils à ce sujet. Et je voudrais prendre d'abord les trois conseils très précis de Jésus lui-même. On retrouve dans Matthieu 10, 12, 13 et 14, Jésus qui dit ceci, « En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix revienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne à vous, donc qu'elle ne se perde pas. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand on veut faire l'œuvre au nom du Seigneur, ou laisser le Seigneur faire l'œuvre du Seigneur à travers nous, il ne faut pas insister. C'est gratuit. On y va gratuitement, on veut donner la paix à cette maison, à cette personne. Mais si cette personne ne veut rien savoir, c'est une fin de non-recevoir, il ne faut pas insister. Il faut repartir. Donc, il faut se corriger de notre manie, et je dis manie à dessein, de toujours vouloir convertir et toujours vouloir amener les gens presque de force à la parole du Seigneur. On continue sa route, ailleurs et autrement. D'ailleurs, l'Évangile est rempli d'exemples. Les actes des apôtres sont remplis d'exemples. On voit comment Jésus a changé de ville, a changé de région, dès qu'il a senti l'obstination, l'aveuglement. Les apôtres également. Dans les actes des apôtres, on sait que Paul et Barnabas, devant l'agitation des Juifs, et je cite les Actes des Apôtres, 13-51, « secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et gagnèrent Iconium. » Donc, c'est un conseil qui vient du Seigneur. Il faut le prendre et le mettre en pratique. Un autre conseil du Seigneur, il nous dit, et en termes percutants, vous en conviendrez avec moi, « ne donnez pas aux chiens ce qui est saint. » Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Matthieu 7, 6. Et ailleurs, le troisième conseil qui vient de Jésus, ce sont ses propres paroles. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés, c'est-à-dire adroits. Comme des serpents et candides, ça veut dire simple, comme les colombes. Matthieu 10, 16. De prime abord, ce sont des conseils qui sont étonnants, ce sont des expressions fortes, mais croyez-moi, à l'expérience de mon propre vécu, c'est encore d'actualité. Il faut faire bien attention de ne pas aller donner des choses saintes, des idées saintes, des paroles saintes à des gens qui ne peuvent pas voir la différence et peuvent, à un moment donné, soit faire une indigestion spirituelle, soit même nous retourner ces choses-là avec dommage et intérêt. J'ajouterai à ces trois conseils de Jésus d'autres conseils d'amis qui tirent également de mon vécu. Apprendre à demeurer sur son terrain. Et on peut écrire son avec un petit S, puis avec un grand S, son terrain à lui. Quand on agit au nom du Seigneur, se contenter de proclamer, de partager, d'illustrer par son propre vécu, bien vécu, la bonne nouvelle et le bon vin nouveau du Seigneur. Donc, exposer, proposer, disposer, mais jamais imposé. Ne pas discuter, ne pas argumenter, ne pas plaider. avoir l'attitude en définitive, et c'est tout à fait bien fondé, que c'est un cadeau qu'on fait aux gens. Ce n'est pas un impôt ni une imposition qu'on leur fait. Si l'autre envahit notre terrain ou le terrain du Seigneur, sachons toujours que l'Esprit nous donnera, séance tenante, ce qu'il faut dire. On connaît ce texte de Luc 21, 14 et 15. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense, car moi je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Et cet autre texte de Luc 12, 11 et 12, lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure ce qu'il faut dire. Donc, restez en paix, mais en même temps sur son terrain avec un grand S. Un autre conseil pour protéger notre paix intérieure, c'est de se bien préparer à recevoir la charité, la vérité et la liberté. Comme je l'ai indiqué, je pense, au tout début de l'enseignement, les trois nous viennent de deux manières, soit en direct, directement du Seigneur, soit en différé. Prenons la venue de ces trois sources, fleuves, en direct. Eh bien, si on veut tout capter en plénitude, c'est important de faire une mise au point de tout son être en tant que récepteur et retransmetteur. Parce que ce qui vient de Dieu Trinité, c'est de la charité toute pure, la vérité toute sûre, la liberté toute mûre. Donc ce n'est pas du dilué, de l'obscur, du contrefait.